Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel et vous écoutez les oreilles loin du front. Alors déjà pour commencer, bonnes ondes. Et puis alors aujourd'hui dans le dossier du jour, alors, Céline,
dans le dossier du jour, on reçoit la sociologue Karen Akoka pour parler de la figure du réfugié, la fabrique du réfugié, enfin ce qu'elle a appelé la fabrique du réfugié, puisqu'elle a fait une thèse sur l'OFPRA, qui est l'office chargé de recevoir les demandes formulées par les réfugiés. Et voilà, donc ce sera une perspective socio-historique sur la figure du réfugié.
Et puis pour commencer, on aura une chronique, puisque c'est le retour de la petite Blanc. Et on commencera d'ailleurs par cette chronique. Ça sera un peu une surprise.
Voilà, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel à l'écoute des oreilles loin du front.
Et c'était
Voilà, et puis ce soir, on va revenir du coup sur la figure du réfugié. On reçoit la sociologue Karen Akuka. Bonsoir.
Bonsoir.
Tu es donc aujourd'hui maîtresse de conférence à Paris 10 en sciences politiques, mais tu es aussi l'auteur d'une thèse intitulée « La fabrique du réfugié à l'OFPRA, du consulat des réfugiés à l'administration des demandeurs d'asile 1952-1992 ». Et du coup, ce que tu proposes, c'est, enfin, ce que tu nous proposes ce soir, ça va être une réflexion sur voilà, sur comment se construit la figure du réfugié, comment c'est une figure qui en fait n'a pas de permanence dans sa définition dans le temps. Et comment les politiques d'asile ont été soumises d'abord aux politiques diplomatiques et sont aujourd'hui subordonnées aux politiques migratoires. Alors du coup, première question qu'on pose souvent à nos invités, c'est le choix de ton sujet. Comment t'en es arrivé à travailler sur cette question et voilà, sur l'OFPRA, qui est l'Office de protection des réfugiés et des apatrides, qui enregistre les demandes des réfugiés. Voilà, comment t'en es arrivé à t'intéresser à cette question et à avoir cette perspective socio-historique et institutionnelle aussi ?
Alors, j'ai décidé de travailler sur ce sujet parce que, en fait, avant ça, j'ai rencontré ces sujets-là dans une expérience professionnelle. Avant mon expérience universitaire, enfin, avant ma carrière universitaire, on va dire avec des grands mots, j'ai travaillé pendant plusieurs années pour le Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies, le HCR. Et donc, j'ai été moi-même pendant quelques années dans le bureau du HCR de Jérusalem, un officier qui était chargé de décider si oui ou non les personnes qui se présentaient devant moi, elles correspondaient ou pas à la définition du réfugié selon la Convention de Genève, ou si, elles étaient des migrants. Et en fait, c'est beaucoup les questions qui m'ont accompagnée pendant ces années, surtout les questions non résolues, les interrogations, les frustrations, hein, c'est pas celle du début, parce qu'au début, c'est une excitation, qui m'ont donné envie au moment où quand je suis rentrée en France et que j'ai décidé de m'engager dans une thèse, de creuser cette question-là, hein, de faire son sort un peu à cette catégorie du réfugié et d'essayer de répondre à ces questions-là qui étaient restées un peu béantes et qui avaient été douloureuses a posteriori.
Et du coup, comment t'en es venu à t'intéresser à l'OFPRA, enfin, pourquoi tu as choisi d'avoir cette perspective aussi socio-historique, enfin, c'était dès le début ou c'était plutôt
J'avais envie de travailler non pas sur les migrants et les réfugiés eux-mêmes, parce que de mon point de vue, c'était plutôt les institutions qu'il s'agissait d'interroger. Et c'était une manière d'inverser le regard, c'est-à-dire qu'au lieu de chercher la qualité de réfugiés à l'intérieur des individus en se demandant quels sont leurs parcours, qu'est-ce qu'ils ont fait comme trajet, est-ce que telle violence qu'ils ont subie, c'est de la persécution, c'est plutôt de se poser la question d'inverser le regard pour montrer que la catégorie de réfugiés est tout simplement produite par les institutions. Et donc c'est vers elle qu'il faut se tourner pour essayer de comprendre qui sont ces réfugiés, au lieu toujours d'aller vers les migrants et d'explorer leur trajectoire douloureuse pour essayer de les mesurer à quelque chose qui serait de l'ordre d'une définition juridique qui s'interprète.
Et comment tu as été accueillie par l'OFPRA quand tu as dit que tu voulais faire une recherche là-dessus ?
Alors, j'étais accueillie... Alors, pas si mal que ça, d'abord parce que ce que je disais, et c'était vrai, c'est que j'avais vécu ce que les agents de l'OFPRA, hein, que j'ai interviewé, que j'ai interrogé, vivent. Et donc, je venais pas du tout avec une perspective. On entend beaucoup dans les discours à la fois militants et universitaires cette idée que les agents de l'OFPRA, parce que l'OFPRA a 22% aujourd'hui, 15% hier d'accord au statut de réfugié. Donc, on a ce discours sur eux comme quoi c'est des monstres, comme quoi ils viennent dans cette institution pour se faire un étranger, pour fermer la porte. Et en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et moi, j'avais cette expérience-là. Donc, les agents que j'ai rencontrés, je leur disais que je savais ce que c'était de faire ce métier-là. Et je pense que ça a permis quelque chose de l'ordre d'un dialogue qui aurait peut-être été plus difficile parce qu'effectivement, ils sont méfiants. Ils sont méfiants parce qu'à la fois, ils travaillent dans une institution, ils ont l'obligation du secret professionnel, etc. Et puis, qu'ils sont très critiqués, mais à juste titre. Mais ça les rend méfiants. Donc voilà, donc, c'était possible pour ça. C'était aussi possible parce que je suis arrivée à un moment où l'OFPRA a commencé à essayer de mettre en place une politique d'ouverture. Elle s'est rendue compte qu'elle était critiquée et que, en fait, ça valait le coup pour elle d'être plus transparente, qu'elle n'avait pas tant de choses que ça à cacher. Et d'ailleurs, c'est vrai, elle n'a pas tant de choses que ça à cacher. Et donc, de jouer la politique d'ouverture pour essayer d'éviter les critiques. Donc, je suis arrivée à ce moment-là. Après, ça s'est refermé. Après, ça s'est réouvert, refermé. Puis à nouveau, là, maintenant, c'est très, très ouvert. Il y a une politique très forte de transparence avec un directeur général très, très actif, qui est un grand communicant. Donc, voilà.
Et quand as-tu commencé ton terrain, en fait ? À quelle époque ?
Alors, mon terrain, je l'ai commencé en 2004. Donc ça date, mais en fait mon terrain il a subi des comme très très souvent dans les thèses hein, mais des grandes modifications, c'est-à-dire qu'au départ j'ai vraiment voulu travailler sur l'OFPRA, les agents et cette rencontre entre les réfugiés et les demandeurs d'asile et les agents de l'OFPRA pour essayer de comprendre ce qui se joue. Et j'avais peut-être l'impression que c'est là, en regardant cette rencontre, cette interaction, que j'allais essayer de que j'allais réussir à répondre à ces questions avec lesquelles j'étais restée, à lever le voile sur qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, dans ce moment où on nomme ou on nomme pas quelqu'un comme migrant et réfugié. Et en fait, je me suis assez rapidement rendu compte que d'observer l'interaction ou de faire des entretiens avec d'un côté des agents, puis d'autres entretiens avec de l'autre côté des demandeurs d'asile, ça ne me permettait pas de répondre aux questions spécifiques que moi je me posais. Et que ça me mettait dans cet espace où il fallait choisir, donc soit d'être du point de vue de l'institution, soit de celle des réfugiés. Donc évidemment, j'étais de celle des réfugiés, mais je reproduisais finalement hein, tous les discours qui existent déjà sur cette question. Et donc, ce que j'ai voulu faire, ou en tout cas je ne l'ai pas décidé, mais ce qui s'est passé, c'est que en rencontrant à un moment donné un agent de l'OFPRA qui avait travaillé à l'OFPRA à la fin des années 80, j'ai fait un entretien avec cet agent et je me suis rendu compte que l'OFPRA des années 70-80 n'avait absolument rien à voir avec l'OFPRA d'aujourd'hui. Et que en fait, là, il y avait une piste intéressante pour essayer de faire son sort à cette catégorie de réfugiés, en tout cas de l'interroger en profondeur. Ça veut dire quoi l'interroger en profondeur ? C'est-à-dire au lieu de se poser la question est-ce qu'ils sont vrais ou est-ce qu'ils sont faux ? Et donc soit produire un savoir en montrant que l'institution se trompe et que alors qu'ils sont là pour la plupart vrais, elle les labellise comme faux et que ces 20% de rejet devraient être 70%, ou alors de faire l'inverse, hein, ce qui était ce que j'ai fait d'ailleurs toutes mes premières années de travaux de recherche, c'est-à-dire montrer, alors non, je dis l'inverse, mais je sais plus ce que. l'autre discours possible, c'est montrer. Alors, c'est le discours de l'institution, non, c'est ça, c'est ce que je n'ai pas fait, qui est de dire, en fait, on aimerait les aider, mais on ne peut pas, selon la Convention de Genève, ils ne correspondent pas, ce ne sont pas des vrais, on n'y peut rien. Hein, l'OFPRA, les agents l'OFPRA, c'est sincère, on n'y peut rien, on aimerait, mais on ne peut pas, liés par la Convention de Genève. Et donc l'autre discours, c'est de montrer qu'ils sont en fait tous faux, mais que voilà, il y en a très peu qui correspondent. Donc, retravailler sur l'OFPRA aujourd'hui avec les agents, les demandeurs d'asile, et en fait, je reproduisais ça. C'est-à-dire, soit j'allais vers un discours, soit j'allais vers l'autre. Alors évidemment, j'avais tendance à plutôt dire que l'OFPRA n'avait pas les moyens de vraiment reconnaître les vrais et labelliser comme faux des vrais parce que les agents n'avaient pas assez de connaissances sur les pays ou n'avaient pas assez de moyens pour vraiment savoir. Donc voilà, et le détour par l'histoire, enfin, ce que moi j'appelle le détour par l'histoire, ça permet de poser la question complètement différemment, ça permet justement de sortir de cette question du vrai et du faux, d'arrêter de se demander est-ce qu'ils sont vrais ou faux, et de se poser la question de qu'est-ce que c'est que cette catégorie, comment ça se fait qu'à un moment on la prend de cette manière, donc dans les années 50, 60, 70, et d'un autre moment, à un moment on la prend de telle manière, et qu'en fait la catégorie de réfugiés, elle est que le résultat d'usages qui sont les usages des agents, mais aussi des demandeurs d'asile qui la mobilisent. Et donc voilà. Et finalement, ma thèse, hein, j'ai interviewé une trentaine d'agents, j'ai observé des auditions à l'OFPRA, mais les trois quarts de ma thèse, en fait, c'est un travail socio-historique sur l'OFPRA des années 50 à 90, avec beaucoup de travail sur archives et aussi des entretiens avec des anciens agents, des agents qui travaillaient dans ces années-là. Et pas tellement un travail sur aujourd'hui, donc qui permet justement de ce qui m'a permis moi de sortir de cette question du vrai et du faux et de montrer que il y a une catégorie de réfugiés qui est le produit d'usages qui changent en fonction des intérêts politiques, géopolitiques, économiques des différents acteurs qui la mobilisent, que ce soit les agents ou les demandeurs d'asile.
Alors avant justement qu'on s'intéresse plus en profondeur à ça, sur l'accès aux archives, t'as pas eu de problème non plus. C'était...
Non, alors je suis arrivée à un moment où l'OFPRA commençait à ouvrir ses archives. Mais c'était tout début. Et donc le seul problème que j'ai eu, c'est pas tellement un problème de droit, c'est un problème qu'ils étaient en train de trier, etc. Donc ça a fini complètement de s'ouvrir au moment où j'étais en train de finir d'écrire. Donc c'est toujours un petit peu difficile, c'est ce genre de... Mais bon, j'ai pu quand même avoir accès à des choses. Et j'ai eu accès aux archives du ministère des Affaires étrangères, du ministère de l'Intérieur, des archives, enfin, d'autres fonds, je ne vais pas vous citer tous les fonds. Mais en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il y a très très peu de gens qui avaient travaillé sur cette période des années 50 à 80. Donc d'où l'intérêt d'un travail sur archives. Et la raison pour laquelle je pense peu de gens ont travaillé sur cette période, c'est que c'est une période qui est considérée comme une période sans problème. Donc les années 50, 60, 70, c'est des années où on a 80% de taux d'accord au statut de réfugié. Aujourd'hui, on a 20% d'accord au taux de statut de réfugié. Donc au fond, on ne s'est pas tellement interrogé sur ces années-là où tout a l'air de se passer bien, où on dirait que c'est un temps où les gens qui demandent l'asile sont des vrais et l'institution fait bien son travail de les localiser. Mais en fait, je pense que c'est fondamental de travailler sur ce temps-là parce que c'est un temps où se construit la figure, l'archétype du réfugié sur laquelle on vit encore aujourd'hui. Et qui ne correspond pas du tout à ce que ça a été, les demandeurs d'asile de cette époque. Et donc...
Oui, et c'est ce que tu dis aussi, c'est vu comme un âge d'or aujourd'hui, alors que c'est pas du tout, enfin il n'y a aucune raison de l'idéaliser, quoi. Mais du coup, avant qu'on revienne là-dessus, parce que l'OFPRA, du coup, c'est un office qui est créé, si je comprends bien, après la signature de la Convention de Genève en 1951. Mais juste, peut-être pour... Enfin, même si ce n'est pas la période sur laquelle tu as travaillé, qu'est-ce qui existe en fait en matière d'asile avant 1951 et avant la création de l'OFPRA, parce que ça, enfin c'est après il y a aussi cet héritage de comment on désignait des réfugiés de cette époque, j'imagine.
Avant l'OFPRA est créée en 52 et avant la création de l'OFPRA, c'est une organisation internationale du type HR, c'est un peu l'ancêtre du HR qui s'appelle l'Organisation internationale pour les réfugiés et des offices de réfugiés qui décident qui est réfugié ou pas. Donc c'est des entités qui sont plutôt des entités... enfin, l'Organisation internationale pour les réfugiés, c'est une entité internationale. Et les offices de réfugiés, c'est des espèces de consulats. C'est-à-dire, il y a un office des réfugiés russes où c'est un ancien diplomate russe qui donne à ses compatriotes russes ou non le statut de réfugié. On a pareil avec les Arméniens. Donc c'est un système qui est plutôt tourné vers... c'est un système qui est un système plutôt international. Et 1952, la création de l'OFPRA, ça correspond à ce qu'on appellerait la nationalisation du droit d'asile, c'est-à-dire où ça vient dans les mains d'une administration, l'administration française. Et ce moment-là, 52, où ça devient français, c'est un moment qui a été analysé pendant très longtemps comme donc un moment, la preuve d'un tournant où on passe vers du contrôle, vers une administration bureaucratique. Or, ce que moi j'ai vu en regardant les archives, notamment celles de l'OFPRA, c'est que la transition en 52 et le passage à l'OFPRA, ça fait pas du tout une rupture. Parce que en fait, les agents qui donnent ou qui donnent pas le statut de réfugié à l'OFPRA, ceux qu'on appelle les officiers de protection, c'est les anciens agents de l'Organisation internationale pour les réfugiés, c'est les anciens diplomates russes, arméniens, polonais, hongrois. Et donc, on est finalement pas du tout dans une configuration de rupture, ce qui explique aussi la continuation des pratiques. Et c'est seulement, il va falloir attendre bien plus longtemps, les années 70-80, pour finalement être avec une véritable institution bureaucratisée, une administration avec des agents français et du contrôle et des taux de rejet, etc.
Et alors, la Convention de Genève en 1951, elle définit le statut de le réfugié par la persécution. En fait, on obtient le statut de réfugié parce qu'on a été persécuté. On verra que voilà, c'est une définition qui n'est pas forcément hyper précise en fait dans le texte. Mais avant, du coup, la définition de réfugié, c'est quoi? Enfin, si c'est pas la persécution avant la Convention de Genève, c'est quoi?
Alors, dans l'entre-deux-guerres, il y a toute une série de définitions qui sont élaborées pour essayer de donner un contenu juridique à ce que c'est un réfugié. Et donc, la première définition, en fait, au début des années 20, un réfugié, c'est un Russe. Qu'il soit, il n'a pas besoin de montrer qu'il est persécuté, il n'a pas besoin de dire qu'il a des problèmes ou des craintes dans son pays, hein. Il suffit d'être russe pour être réfugié. Et puis après, on va rajouter les Arméniens. Et ensuite, on va rajouter encore deux ou trois autres groupes. Et donc, tout l'entre-deux-guerres, ce qui définit le réfugié, c'est son appartenance à un groupe national, et pas du tout une expérience individuelle. Et un groupe national désigné spécifiquement en amont, et ce dont on se rend compte, c'est que les groupes nationaux qui peuvent bénéficier de ce statut de réfugié, hein, c'est les Russes et les Arméniens. Donc les Russes, c'est quoi? C'est l'entre-deux-guerres, au moment où le grand problème pour l'Europe occidentale et la France notamment, c'est le bolchevisme. Hein, c'est la peur de l'exportation de la révolution bolchevique. Et donc, la définition du réfugié, elle permet hein, de lutter contre le bolchevisme. Au même moment, les Italiens ou les Espagnols qui fuient des régimes fascistes de Mussolini et de Franco, ils ne peuvent pas avoir accès au statut de réfugié parce que le groupe national des Espagnols et des Italiens rentrent pas dans la définition de ce que c'est un réfugié. Donc on voit déjà, mais on peut voir ça même encore avant, et on peut voir ça jusque dans l'Antiquité grecque et l'Antiquité romaine, comme à chaque fois, le contenu de la définition qu'on donne du réfugié, ça correspond à des intérêts politiques, idéologiques, à un moment donné, et que donc est toujours défini comme réfugié, au fond, l'ennemi de notre ennemi.
Et alors, donc en 1951 est adoptée la Convention de Genève, donc qui définit le réfugié par la persécution, mais quelle persécution en fait ?
La Convention de Genève, elle dit « est réfugiée toute personne qui craint avec raison d'être persécutée pour... » Et après, elle donne 5 critères, ses opinions politiques, sa race, son appartenance à un groupe social, je vais en oublier un ou deux. Donc ça, c'est la définition du réfugié comme persécuté, selon la Convention de Genève, définition avec laquelle on travaille encore aujourd'hui. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de revenir sur les débats qui ont précédé l'élaboration de cette Convention de Genève, parce qu'encore une fois, ils nous permettent de voir que le réfugié, c'est le produit d'une manière de penser ses intérêts. Et c'est surtout, et dans ces années-là encore, beaucoup, c'est des questions géopolitiques très, très, très profondes. Alors, donc, si on regarde les discussions qui ont précédé l'élaboration de la Convention de Genève, et là, il y a une universitaire américaine qui s'appelle Jacqueline Baba qui a un peu travaillé là-dessus, on se rend compte qu'il y avait des débats entre le camp soviétique et le camp occidental. Et les Occidentaux, ce qu'ils prenaient comme définition du réfugié, c'est le réfugié comme persécuté. Et ça, qu'est-ce que ça leur permettait ? Ça leur permettait de montrer du doigt les gouvernements tyranniques qui... Et ça leur permet de montrer du doigt la violence politique et les gouvernements tyranniques qui empêchent les libertés politiques individuelles. Donc on est là dans la ligne droite hein, des valeurs de la démocratie libérale hein, qui néglige les injustices socio-économiques, mais par contre hein, qui promeut la liberté individuelle et la liberté politique. De l'autre côté, hein, dans le bloc communiste puis soviétique, lui, ce qu'il promeut comme définition du réfugié, c'est quelqu'un qui n'est pas victime de violences politiques, mais qui est victime de violences socio-économiques. Et donc là, hein, on est dans la lignée de l'héritage communiste, qui, lui, néglige les libertés individuelles et qui promeut hein, les droits socio-économiques. Donc on voit, et je trouve ça particulièrement intéressant de regarder ce moment, parce que c'est un moment où les choses étaient encore possibles. C'est-à-dire que si le réfugié avait été finalement la personne qui est victime d'une violence économique, aujourd'hui, le réfugié légitime, ce serait le réfugié de la faim, F-A-I-M, hein, le pauvre qui fuit la misère économique. Et alors, le migrant illégitime, ça aurait été celui qui fuit des crimes politiques qu'il aurait commis. Et donc voilà, donc les choses se sont passées comme elles se sont passées. Hein, évidemment, le bloc occidental a imposé sa définition du réfugié comme persécuté. Donc, et aujourd'hui, la figure de l'étranger légitime, c'est celui qui fuit les violences socio-économiques, et la figure du réfugié légitime, enfin de l'étranger légitime, donc du réfugié, est celui qui fuit les violences politiques. Et donc, et en faisant ça, ce que je trouve, alors, il y a des choses très très belles qui ont été écrites par Pierre Bourdieu sur le recours à l'histoire comme instrument de dénaturalisation. Et ce qu'il montre, c'est que l'histoire, c'est un moyen très efficace de rompre avec les catégories qu'on a incorporées et qu'on a naturalisées. Et ce qu'il dit, et qui est très très beau, c'est qu'il dit que finalement, quand on revient au commencement, au moment d'avant où les choses sont posées, hein, on voit les possibles qui ont été écartés, et on voit que notre présent est impossible parmi tout ce qui s'est réalisé. Et donc là, dans ce cas de figure spécifique, on voit que finalement, ce qu'on a hérité, nous, hein, la définition du réfugié, c'est impossible qui s'est réalisé, et qu'il y a d'autres possibles qui ont été écartés, et que ça aurait pu être tout autre, et que c'est pas du tout de toute éternité qu'un réfugié est un persécuté.
حقرني حقرا والحق قالوا شهر طوى من السلطان سيدي يا سيدي يا سيدي اه والحب خلا خيام كانت مذكوره والحب يقولوا طيح السروج بالفرسان ما انا ما انا ما يا انا ما انا ما يا انا ما انا ما انا ما انا والحب اللي به يمرض ما يبرى والحب اللي تعالج يطبه مكانه ويا زليخة مرضت منك ما نبرى والله يجيب الشفا لي عجلان وتسكن ولفي في البلاد المشهورة في العاصمة الغالية عز البلدان ما انا ما انا ما يا انا ما انا ما يا انا ما انا ما انا ما انا ولا صورك وراك خرجتي من البلاد ودرتي كواطك وهجرتي ودرتي الباب واصبر ومشيتي وانا دبر كي ندير ودرتيك وعايا وطق وهجرتي ودرتي البال اصبر وشنعتي وطريق يا معروفة وهيك صغيرة ودرتيك وعايا وطق وهجرتي وهذه الدنيا وهذا هو حالها ودرتي الباصبر وجرتي ودرتي الباصبر ومشيتي وعقلي فيها وكي درتي اللي نديرك ودرتيك واصبر وانشرتي ودرتيك واطق وانشرتي عيني لعند الزنا ويا جنوب لغب ودرتيك واطق وانشرتي وعقلي فيها وقدرتي اللي ندير لك قدرتي قواصل ومشيتي قدرتي قواطق وانشرتي مريم لغة ولا بغيت الزينة
Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel avec les oreilles loin du front. Et c'était Passeport, une chanson tirée de la bande originale d'Exil, un film de Tony Gatliff.
Voilà, et ce soir, on est en plateau avec la sociologue Karen Akoka qui a réalisé une thèse sur la catégorie de réfugiés dans une perspective socio-historique et qui a travaillé sur l'OFPRA, qui est l'Office de protection des réfugiés et apatrides, qui octroie ou non le statut de réfugiés aux demandeurs d'asile. Alors, on parlait juste avant la pause de la Convention de Genève et du fait que, en fait, c'est le bloc, enfin, c'est la définition du bloc occidental qui l'a emporté dans la définition de réfugié. Voilà, puisque la Convention de Genève définit le réfugié par la persécution, mais au sens de persécution politique, en fait, et que donc on obtient le statut de réfugié parce que on veut avoir accès à la liberté politique et on défend sa liberté politique. Mais il y a une autre, il y a un autre élément dans la Convention de Genève, qui laisse en fait une certaine marge de manœuvre aux États, c'est le caractère collectif ou individuel de la persécution.
Alors voilà, il y a un peu deux grandes manières de relativiser, hein, donc de désessentialiser, dénaturaliser cette catégorie de réfugiés. C'est soit de regarder la manière dont les différentes définitions se sont succédées. Donc il y a des définitions à chaque période historique qui sont différentes. Hein, donc un réfugié à chaque fois, c'est un contenu différent et ce contenu-là, il est mis par des individus extérieurs. Ou alors, c'est de regarder la Convention de Genève et de voir qu'il y a différentes manières de l'interpréter dans le temps. Et les deux grandes différentes manières qu'on a eues de l'interpréter dans le temps, c'est que pendant encore toute cette période des années 50, 60, 70, on n'a pas tellement demandé aux gens... alors, je dis aux demandeurs d'asile, mais le mot n'existait même pas. Hein. Ce mot-là, il a été créé dans les années 80. En fait, il y avait une indistinction. On appelait réfugiés les gens qui demandaient l'asile, ce qui fait que des fois, c'est très, très compliqué même de lire les archives et de comprendre qui parle de quoi. Et donc, en tout cas, on va dire, ceux qui sollicitent le statut de réfugié, pendant longtemps, on leur demande pas tellement de prouver qu'ils sont individuellement persécutés. Et c'est seulement vraiment à partir des années 70 pour certains groupes nationaux, 80-90 pour la plupart, qu'on demande de montrer une crainte individuelle de persécution. Alors pourquoi ce changement, ou en tout cas qu'est-ce qu'on met là-dedans? La majorité des candidats à l'asile dans les années 50-60-70, c'est des gens qui fuient les pays d'Europe de l'Est. Donc, il suffit au fond, hein, un peu comme avant, même si la définition a changé, mais il suffit au fond d'être russe, polonais, tchèque, hongrois pour obtenir le statut de réfugié sans devoir vraiment montrer qu'on a des problèmes individuels. Et donc, c'est vraiment, quand on regarde les rapports d'activité de l'OFPRA, quelquefois c'est écrit noir sur blanc. Hein, les mots qui reviennent toujours, c'est bienveillance, tolérance, interprétation large des critères, etc. Hein, dans les textes de l'OFPRA, en tout cas dans les rapports d'activité. Et on voit même à certains moments écrit on va leur donner aux Russes le statut pour leur éviter d'être dans des situations inconfortables. Alors, bon, inconfortable aujourd'hui, c'est vraiment très très loin du critère pour avoir le statut de réfugié. Voilà, toute une réflexion sur le fait que les Russes qui sont pas nés sous le régime soviétique, bon, eux, vraiment, c'est trop inconfortable. Mais ceux qui sont nés sous le régime soviétique, eux, c'est pas si inconfortable de ça. Donc peut-être faudrait pas leur donner, mais quand même, en fait, on va leur donner parce que on va leur donner. Donc on voit, c'est une période où finalement, même si la définition juridique a changé, on reste avec une manière de procéder selon des gros groupes nationaux. Et quand on vient d'un pays sous régime communiste, en gros, on a presque automatiquement le statut de réfugié. Les groupes nationaux qui sont traités avec plus de précautions, plus de contrôle, c'est les Espagnols, hein, qui, eux, donc, fuient le fascisme. Et un peu les Yougoslaves aussi, qui au fond viennent d'un pays communiste, mais pas sous domination soviétique, donc ils ne sont pas dans le pacte de Varsovie, Tito a rompu avec Staline, et donc on voit qu'il y a une manière un peu différente de procéder avec les Yougoslaves. Et puis plus tard encore, dans les années 80, peut-être on y reviendra, il suffit d'être, de fuir les anciens pays d'Indochine, hein, les régimes communistes, Indochine, vietnamien, cambodgien, là aussi, pour avoir automatiquement le statut de réfugié. On ne demande pas du tout de montrer qu'on a une crainte individuelle, de montrer qu'on est personnellement recherché, de montrer qu'on aura des problèmes individuels si on rentre, comme c'est le cas maintenant systématiquement aujourd'hui avec toutes les nationalités.
Et ça, est-ce que tu sais cette conception, si elle prévaut dans l'ensemble du bloc occidental ou c'est particulièrement prégnant en France ?
Je peux pas dire en détail, hein, parce que j'ai pas fait des recherches sur les autres pays. Et cette période des années 50 à 70-80, elle a été travaillée, elle a pas été travaillée non plus tellement ailleurs, en fait. Hein, parce que ailleurs aussi, il y a des taux d'accord à 80%, donc ailleurs aussi, c'est une période sans problème, donc sans problème, sans histoire, donc il faut pas faire son histoire. Mais d'un peu loin, je peux dire que oui, on retrouve un peu ça en Allemagne, on retrouve un peu ça en Suisse, on retrouve un peu ça en Angleterre, avec toutes les précautions, hein, qu'on prend, nous, les universitaires, n'ayant pas fait moi-même des travaux dessus, n'ayant pas lu des travaux dessus.
Mais alors, du coup, parce que ces années-là, c'est aussi l'année... Enfin, on a l'image du réfugié un peu comme dissident politique, en fait. Du coup, si ça, ce que tu dis, c'est que ça ne correspond pas à la vérité, enfin à la réalité en fait de ce qui s'est passé, parce que c'est moins glorieux ou héroïque d'une certaine manière. Mais d'où vient du coup cette image ?
Alors cette image-là, c'est difficile de dire d'où elle vient. Mais en tout cas, ce qui est médiatisé, ce qui est valorisé, hein, c'est cette figure effectivement du dissident soviétique, hein, et avec les arrivées de personnes comme Soljenitsyn ou encore bien d'autres dans les pays occidentaux qui sont accueillis comme des héros, qui sont la figure en fait archétypale du réfugié. Donc on a, c'est difficile de dire où elle est produite et comment, mais en tout cas on voit que la figure du dissident soviétique, c'est la figure type du réfugié. Alors même que si on regarde du coup ce qui se passe dans les institutions, la plupart des gens qui ont le statut, c'est pas du tout les dissidents, mais c'est des... Alors on voit dans les formulaires, il y a certains qui disent « je suis venu pour trouver un russe, je suis venu pour trouver du travail, hop, statut de réfugié ». Donc ce qui est intéressant, peut-être, c'est pas tant de savoir d'où ça vient, ou en tout cas pour le moment c'est difficile, mais c'est de comprendre que c'est de cet écart-là que naît aujourd'hui... le malentendu, enfin c'est pas vraiment un malentendu, hein, c'est plus que ça, mais c'est-à-dire que je vous disais par exemple des agents de l'OFPRA, hein, qui sont au fond, eux, plutôt plein de bonne volonté, ils aimeraient pouvoir donner plus le statut de réfugié, ils sont contents. C'est pas l'image qu'on a. On a l'image, hein, des agents de l'administration comme de la préfecture qui sont dans la rigueur et la répression. Mais les gens avec qui j'ai parlé, la plupart, pas tous, hein, mais la plupart, ils sont contents quand ils peuvent donner le statut. Et c'est ça qui donne du sens à leur métier. Ils se sentent comme des défenseurs du droit d'asile. Ils sont venus là souvent, pas toujours, aussi, beaucoup pour travailler dans une administration aussi, mais ils sont en partie venus pour aider. Ils sont quelquefois très intéressés par les pays, ils ont fait Langso. Et au fond, leur drame, c'est que après ça, ils font 20% d'accord. Et donc voilà, moi, c'était ma question de départ. Hein. C'est que pourquoi est-ce que, comment c'est possible que, avec cette prédisposition-là, on fait 20% d'accord ? Est-ce que, et, donc, l'erreur que j'ai faite, c'est d'essayer de chercher ça d'abord dans les conditions de travail, donc ce que je disais au début, ils n'ont pas assez d'informations, ils ne connaissent pas assez de choses au pays, s'ils connaissaient plus, ils pourraient peut-être donner plus d'accord. Mais au fond, aujourd'hui, ce que je pense, c'est que c'est l'inverse, c'est-à-dire que plus on cherche des détails à confronter avec ce qui se passe dans les pays. Et finalement, au fond, on voit, plus les gens sont spécialisés, plus ils font des rejets. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que la Cour nationale du droit d'asile, la CNDA, c'est-à-dire celle qui donne le statut de réfugié en deuxième instance, hein, pendant longtemps, elle a donné beaucoup plus de statuts que l'OFPRA, alors qu'elle est beaucoup moins spécialisée. Et pourquoi ? Parce que cette spécialisation-là, elle sous-tend cette idée de chercher l'individu précisément, personnellement persécuté, et elle correspond finalement pas du tout à ce que ça a été la réalité même des années où il y avait 80% d'accord au statut de réfugié. Donc le problème, c'est qu'on a cet archétype-là qui fait que ces agents, ils sont toujours en train de chercher une espèce de réfugié introuvable, puisque cette figure-là du dissident, elle correspond à une poignée d'individus. Ce qui m'a conduit, par exemple, à me demander si finalement ce statut de réfugié-là, au fond, il sert moins à protéger cette poignée d'individus qui correspondent à cet archétype du réfugié selon la vision occidentale que tout simplement à légitimer une politique d'immigration répressive en disant bah non, il y a un petit volet qu'on sauve ceux qui ont vraiment besoin.
Alors, du coup, là, on est encore dans le premier temps, en tout cas, de ce qui s'est passé à l'OFPRA à partir du moment où cette institution est créée en 1952. Du coup, ce que tu nous disais, c'était que là, ils sont tous, enfin, toutes les personnes qui demandent l'asile, enfin, qui demandent le statut de réfugié, sont appelées réfugiés. Et que, du coup, donner le statut, c'est aussi décrédibiliser les régimes dont ces personnes viennent, en fait. Donc, par exemple, le régime soviétique. Alors, ça dure jusqu'à quand, en fait ?
Ça dure jusqu'à... Alors, ça va dépendre des nationalités. Hein. Dans les années 50, 60, 70... alors, c'est pas toutes les personnes qui... Il y a 80% d'accord au statut de réfugié. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même des personnes qui l'ont pas. Hein. Il n'y a pas encore le mot demandeur d'asile. Quand je dis elles sont appelées réfugiées, toutes les personnes sont appelées réfugiées, je ne dis pas toutes les personnes reçoivent le statut. Hein. Mais elles sont appelées parce qu'il n'y a pas encore de terme, parce que c'est pas encore. Finalement, c'est pas encore un enjeu, l'enjeu du vrai et du faux. Mais il y a, comme je vous ai dit, hein, des Espagnols, des Yougoslaves, etc., qui sont rejetés, hein, qui sont ces 20%. Même s'il y a une grande partie aussi des Espagnols qui sont acceptés, mais là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça va devenir très, très compliqué. Donc, on a ces années. Alors, en 56, on a, par exemple, un petit épisode qui est l'épisode d'arrivée des Hongrois. Alors, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, la Hongrie, ça signifie quelque chose de complètement différent. Mais les Hongrois, ils arrivent par plusieurs milliers en quelques semaines en France en 56. Hein, ils fuient l'invasion soviétique en Hongrie. Et eux, ils reçoivent automatiquement le statut de réfugié, par exemple. Et alors, je prends cet exemple-là pour montrer les enjeux géopolitiques qui sont derrière ça. Pourquoi ils reçoivent ? Parce que d'abord, et toujours, ça permet de décrédibiliser le régime soviétique. Qu'ensuite, ça permet aussi au gouvernement très anticommuniste de Guy Mollet de détourner l'attention. Parce qu'en 1956, il y a quand même l'échec de Suez et l'échec franco-britannique. Donc voilà, on voit comme... C'est un moment où... Tout d'un coup, il y a des réfugiés qui arrivent en masse, tout le monde reçoit le statut et ça correspond à ces intérêts-là spécifiques. Et ça continue jusque dans les années 70. Et dans les années 70 arrivent les boat people vietnamiens, cambodgiens et laotiens. Donc là encore, alors là on est avec une configuration encore plus spécifique parce que entre 79 et 84, 85, 86, on a 1000 arrivées par mois. Alors, 1000 arrivées par mois, il faut se rendre compte de ce que c'est. Quand Hollande dit on va accueillir 2000 Syriens en deux ans, hein, on a 1000 arrivées par mois. Ces personnes, en fait, elles arrivent pas d'elles-mêmes, comme aujourd'hui, hein, les boat people. Elles sont acheminées depuis des camps de réfugiés en Thaïlande. Donc, elles sont présélectionnées en Thaïlande, mais selon des critères qui n'ont rien à voir avec la Convention de Genève, hein, c'est-à-dire que services rendus à la France, famille en France, connaissance de la langue française. Et ensuite, elles sont amenées en France. Et là, elles reçoivent automatiquement le statut de réfugié. Et on ne leur demande pas du tout de parler des persécutions qu'elles ont pu subir, de montrer qu'elles ont une crainte individuelle, etc. Et donc ça, c'est les années, la fin des années 70, le début des années 80. Alors, c'est un cas emblématique pour moi, ce cas des boat people venus en avion indochinois, parce que je trouve qu'on a là une imbrication de toutes les raisons qui font qu'il y a une volonté politique pour labelliser une population spécifique comme réfugiée. Pourquoi est-ce que les Indochinois, c'est plus des Indochinois, pourquoi les Vietnamiens, les Cambodgiens, les Laotiens, ils sont accueillis aussi à bras aussi ouverts ? Pour toute une série de raisons. D'abord, encore une fois, ça permet de décrédibiliser les régimes communistes, vietnamiens, cambodgiens, laotiens. D'autant plus que c'est quand même des anciens vainqueurs de la guerre de décolonisation contre la France. Ensuite, on est à une période, hein, 79 jusqu'en 86, hein, on est à une période où la France a fermé l'immigration de travail, donc il n'y a plus officiellement de possibilité d'immigration de travail, mais en fait, il y a encore des besoins très forts, notamment dans l'industrie automobile, besoins de main-d'œuvre. Et donc, au fond, on peut se dire, ces Vietnamiens, Cambodgiens, là aussi, on aurait pu les amener comme migrants. Au fond, on n'aurait pas été obligé de dire qu'ils sont réfugiés, mais ça aurait remis en cause la fermeture de l'immigration de travail. Donc, de les accueillir comme réfugiés, ça permet aussi de ne pas remettre en cause cette fermeture de l'immigration de travail, tout en permettant à l'industrie automobile et à fournir une main-d'œuvre à une économie qui en a besoin, puisque dans les années, milieu des années 80, pas toutes les économies, pas tous les secteurs industriels sont touchés par la crise, et il y a encore vraiment des besoins. Ensuite, il y a un calcul qui est fait que ces personnes qui fuient le communisme, elles sont acheminées en grand nombre, hein, ce sera des électeurs potentiels pour la droite. Donc ce qui explique la politique très très énergique de Valéry Giscard d'Estaing à l'époque. Et ensuite, c'est une population qui est très jeune, hein, dont on pense qu'elle pourra compenser le vieillissement démographique de la France. Et dernier point, c'est une population qui est considérée comme très docile. Et très loin des syndicats, hein, une période où on a de plus en plus de grèves dans les usines automobiles, Talbot, Citroën, etc. Et donc les Maghrébins, les subsahariens, eux, sont considérés comme syndiqués, fauteurs de troubles, alors que les Indochinois, eux, sont considérés comme dociles, éloignés des syndicats, et donc une main-d'œuvre idéale. Donc tout ça, hein, on voit ici, dans ce cas de figure-là, il est intéressant parce qu'on voit l'imbrication de tous les facteurs qui font qu'une population est labellisée comme réfugiée. D'abord, avant tout, facteur politique étrangère, diplomatique, le communisme, ensuite économique, le besoin de main-d'œuvre, et ensuite des considérations supposées sur les profils socio-économiques des individus. C'est
êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel. Et c'était Sam Carpiena qui chantait Les Voyageurs avec les oreilles loin du front.
Ah oui, bah oui, bonjour. Bonjour Juliette. On est toujours en plateau avec la sociologue Karen Akoka et on parle de la catégorie de réfugiés. Et juste, voilà, on est arrivé avant la pause à peu près aux années 80. Puisqu'on est dans une perspective socio-historique. Disons, dans les années 80, il y a encore des demandeurs d'asile, c'est d'ailleurs là que le terme apparaît, je crois, des demandeurs d'asile qui sont considérés, pas automatiquement, mais disons à qui on accorde largement le statut de réfugié. Donc c'est ceux qui viennent des camps de réfugiés en Thaïlande, par exemple, ceux qu'on a appelés les boat people. Mais il y a aussi une autre, émerge aussi en fait à ce moment-là, la figure du faux demandeur d'asile. Et le terme de demandeur d'asile émerge dans ces années-là.
Alors oui, les années 80, elles sont intéressantes parce que c'est des années où on a une coexistence entre... ce que j'appellerais l'ancienne logique, hein, c'est-à-dire d'octroi du statut de réfugié quasi automatique, en tout cas pour les populations dont on pense que c'est géopolitiquement intéressant de faire comme ça, et la coexistence avec une nouvelle logique, hein, qui est la logique de recherche au cas par cas, une crainte de persécution individuelle. Et donc, au moment où on fait venir des Vietnamiens, Cambodgiens, Laotiens, on a une autre population qui prend de l'ampleur candidat à l'asile, à l'OFPRA, qui sont les Zaïrois. On les appelle les Zaïrois. Hein, ils sont tout nouvellement décolonisés, enfin tout nouvellement depuis une décennie. Et eux, c'est la figure de l'étranger illégitime. Et donc... alors que quand on est cambodgien, on reçoit automatiquement le statut sans devoir raconter une histoire individuelle. Ceux qu'on appelle les Aïrois, en fait, bon, les Congolais, eux doivent montrer qu'ils sont individuellement recherchés, individuellement persécutés dans leur pays, montrer des preuves. Et là, on a donc une instruction qui n'est pas du tout l'instruction par groupe, comme on avait auparavant, mais une instruction vraiment au cas par cas, avec une très forte suspicion. Un très fort contrôle. Et par exemple, moi, ce que j'ai vu dans les archives de l'OFPRA, c'est qu'il y a évidemment des fraudes, même pour les Vietnamiens, Cambodgiens, Laotiens. Ils font passer des gens qui ne sont pas de leur famille pour les faire venir, évidemment, comme toute personne qui essaye de s'en sortir. Et ces fraudes sont étouffées. Et il y a des fraudes émanant des Congolais, hein, qui, des fraudes notamment aux acédiques, et ces fraudes-là sont médiatisées. Et donc, on voit dans ces années 80, à chaque fois, c'est comme si un groupe était antinomique de l'autre dans la manière dont elle était prise en charge. Donc, je vais les appeler les Indochinois, hein, pour aller plus vite. Les Indochinois, donc... octroi automatique, pas de recherche de persécution individuelle, les Congolais, au cas par cas, systématique, contrôle, rigueur. D'un côté, médiatisation des fraudes, de l'autre, on étouffe les fraudes. Pour les Vietnamiens, les Cambodgiens, les Laotiens, les agents, c'est des Vietnamiens, des Cambodgiens, des Laotiens. Pour les Aïrois, les Congolais, hein, les agents qui s'occupent de leur dossier, c'est des Français. Donc voilà, et la grande différence entre évidemment les Aïrois et les Indochinois, hein, c'est que les Aïrois, ils fuient pas un régime communiste, et puis ils fuient un régime avec laquelle la France, c'est l'après-décolonisation, essaye de garder des très bonnes relations, hein, dans le contexte de toutes les relations qu'elle essaye de garder avec ses anciennes colonies africaines. Donc, donner le statut de réfugié, c'est plus du tout utile, hein, comme ça a pu l'être dans ce cas de figure. Et c'est non seulement pas utile, mais en fait, c'est plutôt nocif, hein, puisque ça, c'est problématique dans les relations de la France avec les pays considérés. Et c'est ce que va faire, en fait, la concomitance entre la fin de la guerre froide, hein, et le développement de la crise économique, qui va donner naissance à l'idée que l'immigration est un problème. Hein, ça va faire des nouveaux candidats à l'asile, des gens à qui c'est plus du tout intéressant de donner statut réfugié. Et non seulement c'est plus intéressant, mais c'est même plutôt problématique, et du point de vue des relations avec les pays, et du point de vue de la politique, et du point de vue de la crise économique, et du point de vue de si jamais on pose l'immigration comme problème, on ne peut pas justifier d'intégrer plus de gens. Et donc, Voilà, les Aérois, c'est un groupe un peu important, un peu emblématique. Et puis à partir d'eux, les groupes suivants, et même les futurs Vietnamiens, Cambodgiens, Laotiens qui viendront dans les années 90, eh ben, leur dossier va être examiné au cas par cas. On va leur demander de montrer qu'ils sont individuellement persécutés. S'ils ne peuvent pas prouver qu'ils sont individuellement persécutés, ils ne sont pas considérés comme réfugiés. Et c'est dans ces années 80, notamment, que naît cette catégorie du demandeur d'asile, qui n'existait pas avant. Et, et toute l'organisation va se tourner autour de cette catégorie du demandeur d'asile. Donc même à l'OFPRA, il va y avoir des espaces différents pour les réfugiés et pour les demandeurs d'asile. On va faire des centres d'hébergement spéciaux pour les demandeurs d'asile. Et donc voilà, c'est pas non plus une catégorie qui va être ça, les demandeurs d'asile. C'est le résultat de la production, d'une certaine manière, de regarder ces étrangers qui demandent l'asile.
Mais il y a une demande explicite en fait de la hiérarchie vis-à-vis des agents de l'OFPRA de traiter, enfin, différemment les Aérois des personnes qui viennent des anciennes colonies d'Indochine, ou c'est plus insidieux, c'est plus ce que tu disais tout à l'heure et sur lequel on va peut-être pouvoir revenir, c'est le fait que c'est la sociologie en fait des agents de l'OFPRA, c'est qui ont été ces agents, enfin de
c'est voilà. un peu un mélange de tout ça. C'est bon, il y a des c'est presque plutôt dans l'autre sens, hein. C'est-à-dire que hiérarchiquement, on demande de traiter avec beaucoup de bienveillance les Vietnamiens, les Cambodgiens, les Laotiens, de faire des procédures dérogatoires, d'interpréter les critères avec beaucoup de tolérance, etc. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'il y a une transformation du profil des agents. Et cette transformation du profil des agents, elle n'est pas anodine. Donc, on passe d'une période, une période où les agents avaient la même nationalité que les requérants. C'est le cas dans les années 80 pour les Vietnamiens, Cambodgiens, Laotiens, et puis c'était le cas avant pour les Russes, les Polonais, les Tchèques, et c'était encore plus fort avec les Russes, les Polonais, les Tchèques, parce que c'était des anciens diplomates, des anciens ministères. Il y avait par exemple un Ukrainien qui était un ancien ministre des Affaires étrangères, un ancien gouverneur géorgien, donc c'est des gens qui étaient dans des postes très haut placés, de régimes qui avaient été déchus. Qui donnent à leurs compatriotes, qui comme eux fuient les régimes qu'ils ont fui, le statut de réfugié. Donc on était dans une configuration où c'est comme des espèces de mini-consulats. Hein, c'est pour ça que ma thèse, j'ai appelé ça du consulat des réfugiés à l'administration des demandeurs d'asile. Il y avait une configuration, toutes les années 50-70, où c'était comme des mini-consulats autogérés, mais autogérés parce que la France le voulait bien, parce que ça l'arrangeait, à la configuration où les agents, ils deviennent français. Où on ne peut plus. C'était une anomalie. Hein. L'OFPRA, c'était la seule administration où il y avait des agents qui n'étaient pas français. Normalement, c'est pas
possible. Il faut passer un concours, il y a une formation spécifique.
Alors, le concours, il est créé en 1991, enfin au début des années 90, il y a un concours qui est créé parce qu'il y a. Est créée la fonction d'officier de protection qui est un agent de catégorie A, B, C et qui n'existait pas non plus avant. Donc on a une transformation du profil des agents, mais qui est là parce que elle reflète une transformation du rapport aux étrangers qui demandent l'asile. Et donc petit à petit, on n'a plus d'étrangers, on a des Français. Et petit à petit, c'est pas. Alors il y a une période où c'est des Français un peu militants. Et puis ensuite, c'est une période où il faut passer un concours administratif de la fonction publique et donc être au service de l'État et donc garder un certain droit de réserve, etc. Ce qui est intéressant justement à cette période des années 80, c'est qu'il y a encore un mélange des profils. Hein. On a un mélange entre les Français et les non-Français. Les agents qui me parlaient de l'OFPRA des années 80, même des années 70, ils racontent que ça parlait dans toutes les langues, que les gens parlaient dans toutes les langues ensemble. C'est pas du tout comme ce qu'on peut imaginer dans une administration classique.
Et alors, du coup, dans les années 90, d'une certaine manière, se structure en fait le champ de la demande d'asile tel qu'on le connaît aujourd'hui.
Tout à fait.
Est-ce qu'on peut dire que c'est la fin d'un système différencié, en fait, de la coexistence des deux régimes avec une définition qui persistait, qui venait même d'avant la Convention de Genève, où c'est fondé sur la nationalité, ou du moins l'appartenance à un groupe national, et une pratique qui avait été mise en place avec les Aérois, enfin ce qu'on avait appelé les Aérois, sur l'idée d'une persécution individuelle qu'il faut justifier.
Alors, c'est une bonne question qui est complexe parce que d'un certain point de vue, on peut dire que c'est la fin d'un régime différencié comme structure lourde. Donc aujourd'hui, hein, tout le monde est considéré d'emblée comme demandeur d'asile, doit montrer qu'il est individuellement persécuté, montrer des preuves, etc. Mais on a quand même certains groupes qui sont traités avec plus de bienveillance que d'autres. Par exemple, aujourd'hui, les Syriens sont traités avec un peu plus de bienveillance que les Afghans ou les Irakiens. Hein. Et on peut se poser la question, on peut se demander pourquoi les Afghans et les Irakiens ils fuient une situation de violence généralisée. On est aussi avec plusieurs centaines de milliers de morts dans un pays chaotique, dévasté. Là-dessus, bon, moi, j'ai pas tellement travaillé, j'ai réfléchi évidemment, mais par exemple, aujourd'hui, les pays occidentaux, la France notamment, hein, les relations diplomatiques avec la Syrie, elles sont rompues, pas celles avec l'Irak et l'Afghanistan, hein, et ni avec le Soudan, parce que donc, l'Irak, l'Afghanistan, le Soudan, je dirais que ces trois pays, vraiment de conflits généralisés, de chaos absolu, on pourrait rajouter l'Érythrée, hein, et pourtant, Afghans, Syriens, Irakiens, Érythréens ne sont pas traités avec autant de bienveillance que les Syriens. Et on a là des pays, alors par exemple l'Europe, hein, elle essaye de discuter avec le Soudan pour que le Soudan garde les réfugiés subsahariens, donc elle a tout intérêt à ne pas rompre ses relations diplomatiques avec le Soudan. Donc on retrouve là la logique d'avant, et ça c'est quelque chose dont je n'ai pas tellement parlé, mais la logique d'avant d'un statut de réfugié qui est adossé à des considérations diplomatiques et géopolitiques. Parce que la grande rupture des années 70-80, c'est que on passe d'un statut de réfugié, hein, qui est accordé très largement pour des raisons géopolitiques, de politique étrangère, à un statut de réfugié qui est accordé dans des nombres très très limités pour des raisons de politique économique. Donc très très schématiquement, hein, la manière dont ça a toujours été analysé, c'est ce passage-là de 80% d'accord jusque dans les années 80 à 80% de rejet dans les années 90. Généralement, c'est analysé comme la preuve que c'est la fin de l'indépendance de l'OFPRA. Avant, elle était indépendante parce qu'elle donnait beaucoup le statut de réfugié, et aujourd'hui, elle ne l'est plus puisqu'elle ne le donne plus. Et en fait, moi, ce que je dis dans mon travail, c'est que ce n'est pas du tout une fin d'indépendance, c'est un changement de subordination. Et l'OFPRA n'était pas du tout plus indépendante dans les années 50, 70, 80. Et notre manière de penser, c'est que quand on donne plus de statut, on est indépendant, parce qu'on aime bien l'idée qu'on donne beaucoup de statut, donc on se dit « Ah, c'est de l'indépendance ». Donc ça, c'est une distorsion un peu militante. Mais en fait, c'est le passage d'un temps où la subordination aux politiques étrangères, aux politiques diplomatiques, hein, la question de la politique étrangère et diplomatique était extrêmement forte jusqu'au début des années 80, elle se manifeste par beaucoup d'accords, et la subordination aux politiques migratoires, elle se manifeste par beaucoup de rejets. Donc c'est tout simplement un changement de subordination, et le fait que ce soit rejet et accord ne dit rien sur l'indépendance ou non, elle dit quelque chose sur le type de subordination de l'asile. Donc aujourd'hui, on est plutôt dans cette période-là, on est plutôt dans une période l'octroi de l'asile subordonné aux questions de politique migratoire, dans un temps où l'immigration est considérée comme un problème, mais avec aussi toujours des considérations diplomatiques, de la même manière que dans la période où les considérations diplomatiques prévalaient, il y avait quand même des considérations économiques qui existaient.
Et alors ces réflexions en fait sur la construction de la figure du réfugié, tu as eu l'occasion de les partager avec tes enquêtés, enfin en tout cas avec les agents de l'OFPRA que tu avais interrogés, parce que je crois que tu t'expliques aussi que pour un certain nombre d'entre eux, il y a cette idée que pour préserver l'asile, il faut maintenir la distinction entre ce qu'on appelle aujourd'hui les réfugiés et ceux qu'on appelle les migrants, qui sont, enfin du coup les migrants économiques.
Non, j'ai pas tellement pu. On m'a plusieurs fois proposé de venir parler à l'OFPRA. J'ai toujours dit oui, puis finalement, ça s'est pas fait. Alors je sais pas si c'est un hasard ou pas. Mais cette idée là, pour moi, elle est pas du tout propre aux agents de l'OFPRA. Hein. Cette idée que pour sauver les réfugiés, ben, il faut sacrifier les migrants, c'est une idée assez commune. C'est-à-dire que derrière ça, ce qui est sous-jacent, c'est qu'il y a une fuite qui serait plus légitime que d'autres, des besoins qui seraient plus importants que d'autres. Donc moi, voilà, la question une des questions que je pose dans ma thèse, c'est pourquoi mourir de faim, c'est pire que de mourir en prison. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a incorporé, et qu'on a incorporé parce que, notamment, ça correspond aussi à notre idéologie de nos démocraties libérales, hein, où la question de la violence politique, où la question du collectif, la question de la violence politique, elle est prééminente, et la question du collectif, elle ne l'est pas par rapport à l'individuel. Et donc ça, c'est quelque chose qui est... Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ce que je trouve, c'est que depuis cet été et les débats, avec la photo du petit Ayalan, avec l'ouverture des frontières puis la fermeture, eh bien, cette idée, elle est un petit peu battue en brèche. Et tout d'un coup, se pose la question de pourquoi est-ce que les migrants, pourquoi les migrants mériteraient moins que les réfugiés, hein, même si, bon, pour moi, ça n'a pas de sens, parce que tout ça, c'est des catégories poreuses. Hein, j'espère que je vous ai bien montré que ça n'a pas forcément de sens. Mais en tout cas, l'idée que migrants et réfugiés, ben, peut-être faut arrêter de les distinguer, au risque de faire perdre aux réfugiés le bénéfice qu'ils ont, mais ils sont un tellement petit nombre à l'avoir, et ben donc cette idée-là, elle monte un peu aujourd'hui.
Et tu trouves que c'est une idée qui monte dans quoi, dans les milieux associatifs,
enfin, non, même dans la presse déjà... en fait. Je dirais qu'il y a encore 2 ou 3 ans, c'était pas tellement possible de dire que réfugiés et migrants, c'était peut-être pareil. C'était pas tellement possible. Et c'était pas possible parce que on avait l'impression qu'en faisant ça, on sacrifiait les réfugiés. Et aujourd'hui, c'est possible de poser la question. C'est possible de poser la question, mais pas de la poser pour faire sauter tout le monde, hein, mais de la poser pour se poser la question de pourquoi est-ce qu'on ne peut pas en faire rentrer un peu plus.
Donc de se la poser dans un bon sens.
Ouais.
Ok, ben, je crois qu'on a fait le tour, en tout cas des questions qu'on voulait aborder. Tu travailles toujours sur la figure des réfugiés ou sur l'asile ou je sais pas, les institutions qui octroient l'asile ou...
Oui, je travaille toujours là-dessus. Je travaille aussi là-dessus dans d'autres contextes géographiques, notamment à Chypre, qui est un peu la frontière extrême sud-orientale de l'Union européenne. Face à la Syrie et donc voilà, où se posent d'autres questions, mais on n'aura pas le temps d'aborder. Dans une perspective contemporaine cette fois-ci.
Et puis on aura peut-être l'occasion d'en parler un peu plus tard, une autre prochaine fois. Et puis juste pour vous dire qu'on avait reçu des réfugiés, des réfugrants, on peut dire peut-être, ici sur ce même plateau, qui venaient du Soudan, qui venaient d'Éthiopie et d'Afghanistan. Et vous pouvez écouter notre émission sur notre site internet www.loldf. Et c'était une émission autour des paroles de migrants.
Et alors ce soir, on recevait la sociologue Karen Akoka, qui est maîtresse de conférences à Paris 10 et qui est l'auteur d'une thèse, La fabrique du réfugié à l'OFPRA, du consulat des réfugiés à l'administration des demandeurs d'asile 1952-1992.